L'Afrique dans tous ses états. Une émission réalisée et produite par Radio FM+.
Je suis aujourd'hui avec un jeune inventeur africain, Bokonzi. Je vais laisser se présenter. Nous sommes sur FM+, l'Afrique dans tous ses états. Alors, Monsieur Bokonzi, vous avez le micro pour vous présenter.
En tout cas, merci. Moi, c'est Andreas Gauthienne et Bokonzi, c'est la start-up que nous avons. Et Andreas Gauthienne, c'est le parcours d'un communicant avec 13 années dans la communication. Dont je suis originaire du Congo-Brazzaville où j'ai une agence de communication qui s'appelle Recréation Multimédia. Après plusieurs temps en travaillant avec des entreprises, vraiment dans la communication institutionnelle et les relations publiques, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de créer de la matière, c'est-à-dire aller laisser les services, mais faire de la matière, donc la production des produits. Et c'est pour cela qu'installé en Côte d'Ivoire depuis un moment, nous avons en profité sur la CAN, le moment de la CAN, pour surfer sur l'aspect communication et donc lancer le projet Bokonzi, qui est une start-up qui œuvre dans le domaine des ICC, donc l'industrie créative et culturelle, mais avec un accent un peu plus basé sur l'éducation. Donc les tech, de façon innovante qu'on appelle, c'est que nous créons des jeux et des jouets ludiques pour sensibiliser, éduquer via la création, la fabrication des kits scolaires par des matériaux recyclés et upcyclables. Donc nous faisons des kits scolaires, des sacs, des cartables, des cahiers, des couvertures, des trousses, le tout connecté sur une plateforme qu'on appelle Cop App, qui est une plateforme numérique qui permet à ce que par notre algorithme, lorsque les jeunes apprennent, l'algorithme enregistre leur façon d'apprendre, et puis à la fin du trimestre ou d'un cycle, l'algorithme suggère à l'enfant quels sont les potentiels qu'il doit pouvoir améliorer, quelles sont les matières qu'il doit mieux comprendre, et donc ça permet à ce que nous puissions avoir des données, des statistiques concernant les types, les genres et les potentiels qui sont en train d'être développés pour l'Afrique. Donc c'est vraiment ça qu'on a monté. Et je suis donc un rêveur phaser, c'est comme ça que je me présente, parce que la difficulté, c'était de trouver le mindset qu'il faut en Afrique. Et c'est pour ça que vraiment qu'on part à partir des objets recyclés, upcyclés, donc avec une empreinte écologique. Parce que notre message, c'est de dire en fait qu'on n'a pas forcément besoin d'aller ailleurs pour pouvoir produire. Donc on va avec ce qu'on a, donc on fait avec ce qu'on a. Voilà.
En tout cas, merci de cette brève et brillante présentation. Mais avant, ce qui m'intéresse aussi, ce qui intéresse l'auditeur de FM+, c'est de savoir comment vous en arrivez à... Vous faisiez quoi avant et d'où vous vient l'idée de créer cette start-up?
En tout cas, déjà, l'idée vient dans le fait on a vu un constat, c'est qu'il n'y avait pas de représentation dans le domaine du jeu pour les Africains. Déjà, le Père Noël, il est blanc et il habite au pôle Nord. Donc dans les pays chauds, on imagine qu'il n'arriverait pas avec les bonhommes de neige et tout. Et secondo, la Chine est le plus grand fournisseur des jouets en Afrique, mais la Chine elle-même ne fête pas Noël. Et donc on est resté calme, on s'est dit mais nos grands-parents et nos arrière-parents jouaient comment lorsqu'ils étaient bébés? Et on a remarqué qu'en fait on était en train de s'éloigner de notre culture, de notre éducation, parce que vous savez qu'en Afrique, la transmission de la culture, de la sagesse passait par la culture, par les langues et par donc les coutumes. Et on s'est dit que si on se met à voir que nos enfants sont plus impressionnés par Batman, par Superman, par tous les super-héros étrangers, on se dit ben, finalement nos enfants, qu'est-ce qu'ils connaissent de nos propres héros à nous? Et donc, ce que nous faisions avant, pour aller sur la première question, c'est que nous étions beaucoup plus dans la réalisation des contenus vidéo, comme des documentaires, comme des web-séries. On voulait sensibiliser au travers des médias comme ça. Mais on s'est dit, il faut qu'on aille sur les contacts directs, c'est-à-dire des produits. Et c'est pour ça que Bokonzi est né comme projet, comme je l'ai dit. Donc, c'est en général, en fait, c'est parti d'un communicant qui a vu que la communication ne pouvait pas être que verbale, elle pouvait être aussi non verbale, mais qui passait à travers des produits parce que c'est en contact avec les gens. Et donc nous nous sommes inspirés de l'image que Apple a donnée à iPhone, nous sommes inspirés de ce que les marques sont devenus aujourd'hui des outils d'identification culturelle et d'identification intellectuelle. Et donc on s'est dit pourquoi l'Afrique ne pourrait pas se rapproprier sa propre histoire, mais via le Made in Africa.
Bon, on voit bien que là vous avez une bonne inspiration, parce qu'effectivement ce qu'on constate, les jeux fabriqués en Chine et en Europe inondent tous les marchés. Et ce que vous faites est assez innovant parce que du coup, vous permettez aux jeunes Africains de s'approprier leurs héros et peut-être même les jeux que faisaient leurs parents, leurs grands-parents. Ça, c'est une très bonne chose. Mais vous êtes de quelle formation académique d'abord ?
En tout cas, ça n'a rien à voir avec ma formation académique, si c'était cela, mais parce que moi, je suis ingénieur en système de sécurité électronique. Ça n'a vraiment rien à voir. Mais je pense que le fait d'avoir fait les études d'ingénieur m'ont aidé aujourd'hui à pouvoir mettre au point des plans d'ingénierie, donc, c'est-à-dire de la création. Parce que vous savez, un ingénieur, c'est celui qui trouve des idées ingénieuses pour pouvoir régler une situation. Donc, c'est vraiment parti de là. Ensuite, j'ai travaillé dans la communication pendant longtemps parce que j'ai développé une capacité autodidacte et étant passionné de la communication. Et puis, je me suis formé sur le tas. Et puis, aujourd'hui, j'ai des accréditations et aujourd'hui, je me documente encore plus et je me forme dans le domaine de la pédagogie infantile et les perspectives d'avenir. Donc, du coup, je dirais que c'est beaucoup parti d'un battement de cœur et plus j'avance, plus je suis en train de me former pour être plus outillé. Et puis, je m'inspire aussi beaucoup de ce que je vois autour de moi. Et c'est aussi ça, en fait, pour le message que nous voulons faire passer, c'est qu'on n'a pas toujours besoin d'être accrédité ou certifié du système scolaire. Lorsqu'on découvre son talent et son potentiel, on doit aiguiser ce talent, donc mettre une valeur ajoutée sur ce talent. Et cette valeur ajoutée, c'est se former dans le domaine, parce qu'il y a des reconversions de carrière. Et nous pensons que ces reconversions-là sont en fait pour nous l'avenir pour les jeunes Africains, parce que horizon 2030 et 2050, l'Afrique aura une grande population mondiale, quasiment la première, et la majorité de ces jeunes-là auront moins de 25 ans. Donc ça veut dire que si on voit les diplômes qu'il faut avoir, si on voit les métiers qu'il faut avoir, on se rendra compte que forcément la jeunesse africaine risquera d'avoir beaucoup plus de chômage, déjà que le taux de chômage est élevé. Et donc nous voulons insuffler la création de nouveaux métiers. Mais les nouveaux métiers qui seront générés en fonction, pas seulement des besoins des populations, mais en fonction des réalités du continent. C'est pour ça qu'on pense que les meilleurs métiers sont les talents et les potentiels qu'on a. Comment les gens peuvent donner naissance à de nouveaux métiers. Et aujourd'hui, vous savez, avec un téléphone, on est capable de faire beaucoup de choses. Regardez aujourd'hui le community management, les gestions des réseaux sociaux, c'est devenu un métier. C'est des choses qu'on ne connaissait pas. Il y avait des enseignants, mais les coachs sont devenus un peu plus nombreux parce qu'ils ont pris des spécialités dans des domaines. Donc, il y a certainement des experts dans des secteurs qui ne sont pas encore connus, mais qui peuvent devenir juste le fait que l'on localise un problème et qu'on apporte la solution au problème. Et donc, je vais entamer cela, la partie où je dis que nous, ce que nous faisons comme dans nos guides d'études, c'est reconnaître son identité, donc qui on est, reconnaître son héritage, donc ce qu'on a, et puis reconnaître sa capacité de produire. Donc, vraiment, la troisième partie, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on a. Et donc, ça fait qu'on touche à partir de 3 ans les personnes, parce que c'est la période où la personnalité d'un enfant se construit. Donc dans ces 3 ans, on apprend déjà à l'enfant à connaître qui il est, et aux parents aussi à pouvoir lire quelles sont les personnalités de leurs enfants, les aptitudes que leurs enfants sont déjà un peu plus penchés vers. Ça permet aussi aux parents d'orienter les enfants, parce que avant on voulait que les enfants travaillent dans la fonction publique ou dans les grandes entreprises parce qu'on rêvait, mais il y avait un système. Or avant on était dans le fonctionnel. Aujourd'hui les hommes ne sont plus seulement dans le fonctionnel, il y a aussi le relationnel et il y a l'épanouissement qu'il faut mettre en avant. La productivité, lorsqu'on est productif, ne veut pas dire qu'on est épanoui. Mais lorsqu'on est épanoui, forcément, on est productif. Et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment remettre l'épanouissement pour qu'il n'y ait pas des gens qui sont frustrés. Ou aujourd'hui, on voit les gens retraités, mais ils sont déjà frustrés parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont passé leur vie à faire seulement un boulot alors qu'ils n'étaient pas employés. Ils étaient juste des personnes qui ne faisaient qu'accomplir ce qu'on leur donnait comme feuille de route. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens soient déployés.
C'est très bien. Maintenant, la question que je me pose, et beaucoup d'autres aussi, est-ce que vous produisez les jeux pour, est-ce que vous avez eu un retour d'abord des utilisateurs, d'une part, et d'autre part, avez-vous eu au niveau des ministères, de l'éducation, un accompagnement, un soutien quelconque pour vous aider à faire intégrer ces jeux, ce que vous proposez aux jeunes?
Cette question elle est très importante. Nous, on va avec le slogan, on va avec la force que tu as. Donc, on fait avec ce qu'on a. On n'a pas eu de soutien. Depuis tout ce qu'on fait, on le fait par fonds propres et ou des gens autour qui croient en notre projet, qui nous accompagnent. Mais on a beaucoup de distinctions. Et les distinctions à l'étranger, à l'international, qui nous donnent assez de visibilité. Et aujourd'hui, nous sommes en train de tisser un réseau de partenariats avec des gens qui sont très intéressés dans ce que l'on fait et qui sont en train de nous accompagner. Pour les ministères et autres, bien sûr, on est en train de nous rapprocher d'eux, effectivement, pour pouvoir montrer, d'abord présenter la problématique et la solution qu'on a via nos produits. Mais il y a des entreprises qui nous accompagnent parce que c'est effectivement ça notre cible, c'est qu'on est en, notre modèle économique est basé sur les organismes, les entreprises, les écoles et puis les particuliers plus tard. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on rapproche de toutes les entreprises qui ont des politiques RSE, donc raison sociale d'entreprise, qui veulent saisir l'opportunité de sensibiliser et de passer des messages innovants et vraiment poignants au travers de nos jeux et de nos jouets. C'est ce que nous faisons. Et les ministères, je suis sûr qu'ils sont bien ouverts à nous accueillir. Mais nous, ce que nous voulons faire, c'est déjà marquer l'impact qu'avec ou sans les ministères, on passera notre message. Parce qu'on pense qu'il est très important que le système éducatif traditionnel donne la place ou en collaboration, soit aussi avec le système innovant de l'éducation par le jeu, donc la gamification.
Parce que la question n'était pas anodine, c'est-à-dire que dès la maternelle, par exemple, au tout début, parce que vous avez parlé d'intégrer nos héros africains, et c'est, à mon avis, c'est dès le départ que les gamins doivent prendre conscience. Si déjà au primaire, ils connaissent Batman, qu'on n'a jamais vu, c'est tout de même intéressant qu'ils connaissent les héros africains. C'est pour ça que la question a été posée, pour voir. De toute façon, vous allez devoir rencontrer d'une manière ou d'une autre pour ne serait-ce qu'une période d'essai, pour voir le retour. Et puis, vous faire accompagner soit par des psychologues, enfin une équipe pédagogique, pour évaluer l'impact de ces enfants-là.
Exactement. Nous, par exemple, ce qu'on a créé, c'est des super-héros africains. Ces super-héros-là, on appelle Energo Gardien. Pourquoi Energo? En fait, Energo, c'est Ener pour énergie et Go pour aller en anglais. En fait, c'est l'énergie d'aller, énergie de faire, énergie de commencer. Parce qu'en psychologie, la motivation, c'est l'énergie d'agir. Donc, nous pensons que si on arrive à insérer cette motivation auprès des enfants, ils auront la capacité d'agir, de faire des grandes choses. Maintenant, les super-héros que nous avons faits, c'est que nous avons la Bible des personnages de ces super-héros sont inspirés de nos héros africains comme Thomas Sankara, comme Chaka Zulu, comme Nelson Mandela. Ce sont des gens qu'on a vu leur personnalité, on a pris les bons côtés et on a construit les personnalités de ces super-héros. Mais comme tous les super-héros ont des pouvoirs, on a adapté à ces héros-là, ces super-héros, les pouvoirs des ressources minières. Donc ça va être l'or, ça va être le pétrole, ça va être le cacao et on a fait des ressources naturelles comme le vent, le solaire et tout. Et donc lorsque l'enfant, il lit la bande dessinée de ces super-héros, et avec les produits dérivés, des t-shirts, des gourdes et tout. L'enfant aussi, dans la bande dessinée, a une deuxième partie où c'est la partie maintenant ludique où on dit à l'enfant, comme ton super-héros, par exemple, qui est le pouvoir du soleil, par le solaire, il peut faire de l'électricité. Par le vent, il peut faire de l'énergie éolienne, donc l'électricité aussi, ou bien plus d'autres charges. Et quelles sont les universités en Afrique qui enseignent dans ces ressources, dans ces domaines-là? Quel est le métier que l'on peut pouvoir faire pour être ingénieur spécialiste dans la gestion de ces choses? Donc ça fait que l'enfant découvre que lui aussi peut ressembler à son super-héros. Donc c'est cette psychologie-là. Donc l'enfant, il va s'adapter à son héros il va voir, et comme il a ça sur son sac, il a ça sur sa gourde, il a ça sur son t-shirt, il va s'habituer à ce héros et il va comprendre qu'en fait mon héros met l'électricité grâce au solaire, et il va s'intéresser au solaire, et donc ça fait que l'industrie du solaire aura plus de personnes qui s'y intéressent, et demain on aura des ingénieurs qui travaillent dans le solaire mais qui ont été inspirés depuis leur enfance par ce genre de bande dessinée. C'est ce qu'on voit aujourd'hui avec les Avengers, Hollywood, tout ce qui se passe, mais ce sont des personnes qui ont grandi, qui ont eu ça dans la bande dessinée aujourd'hui, qui ont même beaucoup investi pour que ça soit sur grand écran. Et nous avons fait un film 3D de ces super-héros qui sortira très bientôt. Et donc l'idée pour nous vraiment, c'est de pouvoir passer le message, mais de façon intelligente. Et je vais terminer par le fait de dire que toutes les grandes technologies ont été vraiment soutenues par l'inspiration du biomimétisme, c'est-à-dire l'apprentissage de la nature. Et l'avion, les oiseaux, les bateaux, les poissons et tout. Mais on a remarqué que dans l'éducation, le biomimétisme n'était pas vraiment assez utilisé. Et nous sommes allés sur une méthode d'éducation, de construction de nos supports ludiques qu'on appelle la méthode papillon, donc qui est inspirée de la vie cycle d'un papillon, donc de l'œuf à chenille, chenille à chrysalide, chrysalide à papillon. Donc nous voulons que les personnes découvrent les œufs, donc les talents qu'ils ont. La partie chenille, c'est la partie où on ne trouve pas ça joli, mais où on est encore en train de se trouver. La partie chrysalide, c'est la partie où on est comme dans un cocon, on est en train de se former, s'équiper. Et la partie papillon, c'est la partie où on vole. Les gens voient qu'on est joli, qu'on va de fleur en fleur, de secteur en secteur. Donc voilà.
C'est très bien. Alors, vient la seconde étape de notre entretien où vous participez donc à cet appel à projet. Comment d'abord avez-vous reçu l'information et comment ça s'est passé?
Bon, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, ça passe vite. Connecté sur LinkedIn, on envoie les appels à projet, les participations, et puis on a participé. Et puis on a eu la grâce d'être retenu pour la première partie. Après, il fallait pitcher à distance, on l'a fait. Et puis, par la grâce de Dieu, on a été retenu et ça a été un plaisir pour nous, tout en sachant qu'on participe dans beaucoup de projets comme ça. Des fois, on ne l'est pas retenu, des fois, on l'est. Et lorsqu'on l'est, c'est bien. Cette année, on a eu beaucoup de distinctions par exemple, si je peux citer l'OIF pour la mission économique de l'Afrique du Nord, donc au Canada, au Québec, dont nous y étions présents. Et puis, il y a eu la France. Ça a été pour nous déjà quelque chose de merveilleux. Et puis voilà, on a utilisé, on fait ce que la majorité des entrepreneurs connectés font, être à la veille de tout ce qui se passe autour. Malheureusement, nos pays ne nous donnent pas ces possibilités-là. On est obligé souvent d'avoir la grâce venant de l'extérieur, alors que normalement, le capital humain devait être d'abord découvert à domicile. Mais bon, l'important pour nous aujourd'hui, c'est de communiquer ce qu'on a comme vision et puis de représenter nos pays.
Ok, bon, donc vous avez participé, comme d'habitude, à cet appel à projet. Et puis, la ville de Montpellier, notre territoire montpelliérain, vous a sélectionné. Donc, vous êtes venu, vous avez fait des rencontres. Mardi 25 juin, c'était une soirée gala. Est-ce que vous avez eu des petites touches, en tout cas des retours, des potentiels investisseurs? Comment ça s'est passé?
Oui, en tout cas, les investisseurs, ça dépend de quel investissement. On a connecté avec beaucoup de personnes très merveilleuses, surtout des chercheurs dans les universités qui nous ont encouragés, des experts dans notre secteur, dans le secteur des jeux, c'est des gens qui ont 25 ans d'expérience. On a rencontré des financiers, des avocats qui nous ont parlé de l'importance de protéger ses œuvres. Et comment pour le faire à l'extérieur de notre zone où nous nous exerçons. Donc il y a eu tout ça. Bon, les investissements, nous pensons que pour nous, tout est ressource. L'argent est une ressource, c'est vrai, mais le temps est une ressource, le carnet d'adresses est une ressource, l'expérience est une ressource. Et donc nous, pour nous, tout ce qu'on peut prendre pour nous permettre d'aiguiser, d'améliorer, de perfectionner nos produits, nos services, pour nous, c'est un investissement. Et donc, oui, nous avons eu beaucoup d'investisseurs, potentiels investisseurs, parce que ça ne suffit pas de prendre les cartes de visite ou de changer de mail, ni d'avoir parlé, mais il faut développer les relations tout en gardant l'éthique et l'identité de nos projets. parce que vous savez, quand on est une start-up, l'important c'est de grandir et de tenir dans le temps et pour pouvoir ensuite vraiment devenir un acteur majeur dans le secteur dans lequel nous nous sommes lancés. Donc l'idée pour nous vraiment, c'est de faire grandir notre portefeuille client, aussi notre portefeuille consommateur de nos idéologies, hein, parce que c'est pas toujours les clients, il y a des gens qui vous accompagnent parce qu'ils soutiennent la vision que vous avez. Donc voilà, on a rencontré des gens et puis nous espérons que ça, on va aller avec beaucoup plus de concrétisation.
Ok, en tout cas, on vous le souhaite. La start-up Bokonzi, elle a été créée quand et combien avez-vous de salariés?
Alors Bokonzi, c'est une toute jeune start-up, mais ceux qui l'ont créée ont une grande expérience. Comme je dis, ça fait 8 ans que nous, on est dans le domaine de la communication digitale et multimédia. Et Bokonzi, c'est le projet qui date d'une année. Donc, on a voulu d'abord avoir les assises dans le domaine du numérique, du digital. Et puis, lorsqu'on s'est rendu compte, comme je l'ai dit au début, on avait des services qu'on voulait faire les produits. C'est là où on s'est dit, on va lancer Bokonzi. Donc, Bokonzi, c'est vraiment un projet start-up, mais la maison recréation multimédia est celle qui a donné naissance, en fait, à Bokonzi. Et Bokonzi, c'est vraiment orienté purement sur l'éducation, alors que recréation multimédia, lui, il est vraiment dans les contenus multimédia.
En termes de perspective, je pense que Bokonzi a tout l'avenir devant lui. Maintenant, si on vous demandait de vous projeter dans les 5 ans, ne serait-ce que 5 ans à venir, comment vous vous voyez?
Alors, avec une équipe de plusieurs experts ou bien des gens aguerris dans le secteur du développement, dans le secteur du design, dans le secteur de l'enseignement pédagogique pour enfants, nous projetons dans les 5 ans comme étant un acteur majeur dans le domaine d'éveil de conscience pour la jeunesse. Mais nous avons des projets de pouvoir monter le premier salon des jeux ludiques africains, pour africains. Et nous voulons monter une école qui sera une école des talents, dans le sens où dans cette école, on reçoit toutes les personnes avec ou sans prérequis académiques, mais les emmener à découvrir, dont je parlais sur la méthode Papillon, leur potentiel et créer des métiers. Nous voulons avoir une école où les gens qui rentrent sans savoir ce qu'ils sont, ils doivent avoir ou faire, et sortent de là avec des innovations, avec des nouveaux métiers, avec des solutions apportées aux problématiques autour de leur environnement. Donc c'est vraiment ça notre idée. C'est une école où les gens rentrent et puis découvrent ce à quoi ils sont appelés et puis développent des nouveaux métiers. Et c'est ça en fait notre vision dans les 5 ans. Et voilà, et dans les 2 prochaines années, ce qu'on va faire, c'est vraiment mettre au point cette plateforme-là, la terminer, où on va développer le mindset. Et puis pour les 3 prochaines années, pour atteindre à 5 ans, cette école dont nous voulons mettre au point. Merci.
Quand je vous écoute, je pense aux jeux manga des Japonais. Est-ce que c'est à cela que vous voulez, à ce niveau que vous voulez arriver éventuellement?
Bon, on ne va pas dire niveau, parce que pour nous, on ne se met pas sous. On se dit que l'Afrique a son niveau à lui. Et puis, nous considérons les mangas, ils ont tout simplement mis en valeur leur culture. C'est ça, ils ont juste mis en valeur leur culture. Et nous avons notre culture à nous. Maintenant, la bande dessinée, c'est vrai que des fois, dans le style de dessin, on a un peu du manga, comme vous pouvez dire que l'Afrique a eu à faire des dessins comme les hiéroglyphes, comme les marques. Donc, nous faisons en fonction vraiment du message que nous voulons faire passer. Donc, ce n'est pas forcément du manga comics, mais c'est de la bande dessinée en fonction de la cible que nous voulons toucher. Donc, on a des créations qui sont beaucoup plus traditionnelles. On a des créations qui sont effectivement pour la cible jeune, donc beaucoup manga. Mais on a aussi des images qui sont très fantaisistes. Ça dépend vraiment de la cible qu'on veut toucher. Par exemple, là, on est en train de travailler sur un projet pour les enfants aveugles qui pourront lire les bandes dessinées, mais adaptés avec des reliefs pour qu'ils puissent comprendre. Mais vous allez voir que là, ça ne va pas être forcément du manga. On va trouver un moyen pour pouvoir permettre aux enfants aveugles de maîtriser la signalétique pendant qu'ils sont en train de lire nos bandes dessinées. Donc nous, on va toujours dans des solutions un peu innovantes et on espère avoir assez d'inspiration et surtout les capacités de réaliser. Parce que des fois, il faut avouer qu'on est bloqué parce qu'on n'a pas encore la technique qu'il faut en local. Souvent, il faut exporter et ce n'est pas facile pour nous d'importer plutôt de la matière grise. Mais on est souvent obligé de le faire lorsqu'il faut terminer certains projets. Donc c'est pour ça que pour nous, c'est de trouver des façons innovantes.
Mais du coup, pour votre source d'inspiration, parce que vous avez évoqué les héros africains, peut-être que vous allez vous faire accompagner par des historiens qui vont convoquer en tout cas tous les héros que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas encore. Des héros oubliés avant l'indépendance, avant la colonisation, avant le 15e siècle. Est-ce que vous êtes dans cette démarche-là maintenant ou plus tard ?
Déjà oui, la culture générale, c'est la base de tout ce qu'on fait et surtout pour tout projet pédagogique. Parce qu'il faut bien connaître l'histoire déjà et c'est ça, c'est même pour ça que nous œuvrons pour cela. Parce qu'on remarque que les Africains ne connaissent pas trop leur histoire, mais connaissent plus l'histoire venue du programme occidental scolaire. Donc c'est pour ça que nous allons nous plonger dans les historiens qu'on a en Afrique, mais aussi des bibliothèques extérieures, donc étrangères, qui ont aussi quelques traces. Mais nous allons aussi auprès des personnes physiques qui nous racontent, ses parents, ses grands-parents, qui nous racontent un peu aussi leur version de l'histoire. Et nous essayons de donner une forme. C'est pour ça que nous sommes allés un peu sur du fictif, hormis les personnages qu'on a pris un peu. On n'a pas voulu raconter l'histoire de l'Afrique parce qu'elle a été un peu biaisée. Donc nous, on donne un plaidoyer qui est beaucoup plus orienté sur l'espoir, qui est orienté sur, par exemple, si nous vivions aujourd'hui, si par exemple le temps de l'esclavage, si nos héros connaissaient ce qu'on connaît aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Et on essaye d'adapter ça dans, parce que pour nous, c'est pas un combat de revendication, non, c'est un combat juste de pouvoir affirmer qu'on a aussi la compétence de faire. Donc, on se dit, par exemple, que Shaka Zulu, qui était un grand guerrier, avait des compétences sur la géographie. Il avait des compétences sur les stratégies, avait des compétences sur le management, parce qu'on pense qu'un leader devait avoir ça. Et donc nous, c'est ce qu'on veut faire, qu'on veut communiquer en se basant sur son histoire, mais pas en racontant forcément son histoire. Voilà. Mais c'est en mettant en avant sa personne et ses compétences.
Pendant que je vous écoute, j'imagine que vous pourriez participer à une équipe pédagogique, ne serait-ce qu'au moins pour participer à faire confectionner de nouveaux manuels scolaires. Et peut-être même les illustrer.
Oui, exactement. Et c'est pour ça qu'on est ouvert à toute collaboration et on invite beaucoup nos anciens, nos compères, ceux qui ont beaucoup plus de connaissances et d'expérience. Parce que nous, on veut être guidés aussi. On va quelque part, mais on veut être guidés. On est ouvert à ce que les anciens qui ont plus vécu, qui ont mieux compris certaines choses, puissent pouvoir nous donner leur point de vue afin que nous, on ajoute à celle-là, à ces points de vue aussi, le point de vue de la jeunesse qui va être en fait un équilibre pour la future génération. Donc nous sommes ouverts à participer à tout projet tant que ça rentre dans notre ligne de vision.
Mais du coup, vous êtes venu pendant ces quelques jours participer à cette semaine des jeunes inventeurs africains. Quels souvenirs gardez-vous de cette période-là ?
En tout cas, le souvenir que nous gardons, c'est que l'Afrique est respectée. Ou en tout cas l'Afrique commence à être respectée, parce que lorsque nous avons rencontré les officiels ici en France, et que lorsque chacun de nous, des talents, des projets que nous avions, lorsque nous les présentions, lorsque nous les pitchions, ils étaient tous « waouh ». Ils se disaient « comment vous avez réussi à avoir ce genre d'idée en Afrique, sachant les difficultés qu'il y a en Afrique ?» Et ils nous ont accueillis avec beaucoup de respect, beaucoup de respect. Il n'y a pas eu de parole paternaliste ou bien de supériorité, mais ils nous accueillaient comme étant des personnes qui avaient quelque chose à présenter, à donner. Et ça nous a montré aussi que nous ne devons pas nous sous-estimer. Je me souviens même que dans les pitchs, lorsque nous pitchons les prix et les montants dont nous avons besoin, ils étaient tous du genre, mais il vous en faut plus. Et donc, c'est même eux qui voyaient qu'il fallait qu'on présente plus. Et nous, ça nous a juste montré aussi que lorsqu'on dit ça, c'est parce qu'en Afrique, on apprend à faire avec ce qu'on a. Et on se dit qu'avec peu, on peut faire beaucoup. Et c'est même le message que l'on peut passer à nos dirigeants, c'est qu'en fait, des fois, les solutions ne doivent pas toujours venir de l'extérieur. Parce que si on vient à l'extérieur et qu'on nous valorise, ça serait bien aussi qu'on nous valorise chez nous-mêmes, même si on dit malheureusement que nul n'est prophète chez soi. Mais nous pensons aussi que lorsque le prophète annonce la bonne nouvelle, mais il commence d'abord chez lui.
En tout cas, c'est une belle initiative qu'a prise Monsieur le maire Mickey Delafosse avec toute son équipe. Je tenais au passage à les remercier. Clark Hart, chargé de rayonnement international, M. Nathaniel Moll lui-même. Moi, je suis à Montpellier depuis de longues années et j'ai vu les choses évoluer. Et cette démarche du maire et son équipe, franchement, elle est à saluer. Si toutes les communes pouvaient faire la même chose, franchement, on pourrait établir de bonnes relations entre la France et les colonies et la France et le reste du monde. C'est de ça que la jeunesse a besoin et pas d'autre chose. Bon, puisqu'on arrive à la fin de l'émission, est-ce qu'il y avait un mot de fin ?
Le mot de fin, comme on dit souvent, c'est oser agir. Oser agir, pour nous, c'est des acronymes. On a OSE qui est O-S-E-Z. O pour optimiser, S pour service, E pour émancipation et Z pour zèle. C'est-à-dire que nous optimisons via nos services l'émancipation avec zèle. Et agir, c'est A-G-I-R, donc A pour apprentissage, G pour grandir, I pour investir et R pour rêver. C'est-à-dire que par l'apprentissage, on peut grandir et on peut investir dans nos rêves. Donc tout ce que je peux dire, c'est que je veux dire à tout le monde, osez agir grâce à vos talents et vos potentiels.
Le principe de l'émission, l'invité doit choisir un morceau. Là, vous donnez le titre. Pourquoi ce morceau ? De quoi ça parle, éventuellement ?
Alors là, ça va être difficile parce que je suis amoureux de musique. Donc, pour une fois qu'on me demande ça, je ne sais pas ce que je veux dire. Mais ça va déjà être africain. Je pense le titre de L'argent appelle l'argent. Bongo et Kobingo Bongo. Ouais, parce que c'est L'argent appelle l'argent. Et je crois que c'est Pamelo Mouka, je crois. Je crois que c'est Pamelo Mouka du Congo Brazza. Enfin, je crois que si je ne me trompe pas, je ne dis pas n'importe quoi. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, on est dans un contexte économique. Et effectivement, l'argent appelle l'argent. Mais moi, je dirais que les ressources appellent les ressources. Donc, voilà.
On doit remercier Monsieur Bokonzi, fondateur de Bokonzi. Je préfère retenir son nom-là. C'est beaucoup qui veut dire royauté, qui est évocateur. Et je vous souhaite que l'argent paie l'argent et que l'argent vienne vers vous et que votre passage à Montpellier dans notre beau territoire soit un souvenir mémorable. Je tenais moi aussi à remercier l'autorité Mickey Delafosse, Clark Hart et toute son équipe. Franchement, ce qu'ils font, c'est à renouveler et ça fait 2-3 ans qu'ils ont commencé. Franchement, c'est ça qu'il fallait faire. Merci donc monsieur le fondateur de Bokonzi, merci aux auditeurs et je vous dis à bientôt.
À bientôt, merci.
Je suis client, demande des crédits.